On est dans des notions de bien-être. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Alors qui paraissent assez en décalage avec finalement la dureté de la vie quotidienne. On se dit c'est quand même pas leur priorité quoi, que d'avoir des moments de bien-être. Mais c'est une erreur de se dire ça.
Bienvenue dans Enquête d'humanité, le podcast de la Fondation Croix-Rouge française dédié à la recherche humanitaire et sociale. Crise sanitaire et délitement du lien social, changement climatique et catastrophe, exclusion, exil et accueil à travers les territoires, le 21e siècle nous apporte son lot de défis à relever. Des enjeux majeurs que nous vous proposons ici d'explorer avec celles et ceux qui au quotidien y répondent. Ce sont les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Des rencontres authentiques et éclairantes, présentées par Vincent Léger. Bonne écoute.
Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thibaut Bessosi, docteur en sociologie, chercheur associé de l'Université de Bourgogne et de Lorraine, qui a conduit en 2022 une recherche à Nancy sur la socio-esthétique à l'usage des personnes sans domicile. Votre réflexion puise dans différentes disciplines et champs de connaissances, la sociologie de la marginalité, l'anthropologie urbaine, la sociologie du travail social. Comment vous êtes-vous retrouvé au carrefour de ces trois disciplines ?
Il y a cette attention aux dimensions spatiales de la réalité sociale, particulièrement aux dimensions urbaines, et puis parallèlement un intérêt pour des groupes ou des pratiques marginalisées. Vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les usages non conventionnels, les usages informels, déviants, si ce n'est parfois délinquants, dans l'espace public, puis progressivement, assez naturellement, en fait, j'en suis venu à m'intéresser aux personnes sans domicile, dans toute leur diversité, qu'on va clarifier un petit peu. Vient ensuite, assez naturellement aussi, logiquement, la question des formes de réaction sociale qu'apporte la société par rapport à ces problématiques, la réaction politique, réaction sécuritaire et réaction sociale au sens de la solidarité.
Dans cette recherche, Thibaut, vous avez cherché à comprendre dans quelle mesure l'intervention sociale, plus particulièrement une intervention socio-esthétique, peut participer à la reconstruction corporelle et identitaire des personnes hébergées au sein d'un village d'insertion à Nancy. Alors, pouvez-vous m'en retracer les grandes étapes et principaux résultats?
On voulait donc tester cette hypothèse selon laquelle la socio-esthétique aurait un impact bénéfique, aurait des effets positifs sur ces deux dimensions, corporelle, le soin de soi au sens du corps, et identitaire, le soin de soi au sens du rapport à soi et de l'identité. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, ce type d'intervention à la charnière entre, on va y venir, l'écoute, la médiation sociale, la discussion et évidemment les soins esthétiques corporels. C'est pour ça qu'on peut parler de médiation psychocorporelle à travers cette pratique. Bref, elle est quasiment exclusivement pratiquée dans le milieu hospitalier, dans les milieux très médicaux, en fait, assez peu dans le milieu de l'insertion. Mais il se trouve que, dans le cadre de l'enquête que j'ai développée à Nancy pour cette recherche, j'avais accès à un terrain, c'est un village d'insertion. Hein, bon, il s'agit d'un centre d'hébergement expérimental pour personnes sans abri, qui sont, entre guillemets, de personnes en situation de grande marginalité. Le village d'insertion à Nancy, c'est un hangar de 1500 m² où on a voulu aussi respecter l'esthétique, les normes de ces personnes sans abri très marginalisées, si bien que on y a disposé des caravanes, des algéco, des modulaires de 15 m². Et on dit aux personnes qui y sont hébergées, sur leur choix, elles ont eu le choix, elles n'ont pas été évidemment forcées, on leur dit, ici vous êtes libre, c'est vous qui allez faire vos propres règles, il y a que la loi qui s'impose en fait. Dans ce village, on retrouve aussi deux salles de vie collective, qui sont également de grands modulaires de 36 m², une cuisine collective et une salle d'activité, où là, les personnes peuvent se retrouver. Ce sont des personnes qui se rendent en ville, qui ont un réseau, qui connaissent des gens aussi, notamment des gens de la rue, et qui s'y rendent, qui vaquent à leurs occupations, puis qui reviennent dans ce foyer, qui y vivent finalement comme dans un village, comme si elles étaient simplement des habitants. D'ailleurs, on les appelle les habitants du village et pas des résidents, comme si on était des résidents d'un foyer.
Racontez-moi, comment s'est déroulé votre travail de terrain? Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de cette recherche?
Alors, j'ai la chance, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de travailler sur ce sujet dans le même territoire, hein, à l'échelle de la métropole du Grand Nancy et du département Meurthe-et-Moselle, depuis 2017. Pendant 4 mois, je m'y suis rendu quotidiennement pour simplement partager du temps quotidien avec eux, nouer des relations dans l'optique, donc là on est sur de l'observation fine des comportements qui disent déjà beaucoup de choses, qui révèlent déjà beaucoup de de normes indigènes, de valeurs, de logiques d'action, de priorités au quotidien qui se révèlent comme ça sans être dites, simplement à travers les actes. Et puis dans l'optique, une fois que la confiance est nouée, de faire des entretiens plus formalisés, plus traditionnels en fait, pour creuser, pas tant à propos de leur passé et des raisons, une question traditionnelle qu'on me pose, comment ils sont arrivés à la rue, les gens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ils se débrouillent maintenant qu'ils y sont. Et quelles sont les manières, les plusieurs grandes manières de s'en sortir, ou du moins de survivre quand on est à la rue. Et c'est là-dessus que portaient mes entretiens. Et évidemment, il y avait ensuite un volet sur le rapport au corps.
Vous avez suivi le travail d'une esthéticienne qui a, vous avez observé, participé. Alors parfois même vous avez dû vous mettre à l'écart aussi, quand la parole se libérait ou ne se libérait pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces observations-là, de son travail et de ce qui s'est joué dans le rapport entre cette esthéticienne et les personnes qui avaient ces soins-là, mais aussi dans le rapport que ces gens ont entretenu avec eux-mêmes ensuite, qu'est-ce que
Bien
ça
sûr,
a pu jouer
ouais. Comme j'avais eu une bourse de la part de la Croix-Rouge, je me suis dit je vais utiliser un petit peu de cette bourse pour rémunérer trois interventions de 3 ou 4 heures chacune par une esthéticienne, une socio-esthéticienne de Nancy qui m'a été conseillée, Laura. Et Laura, elle est venue à 3 reprises, donc au sein du village, pendant plusieurs heures. Et finalement, on s'aperçoit que les hommes, une fois qu'on a fait sauter cette barrière un peu de la représentation de ce type de soins qui serait réservé aux femmes, finalement, peuvent y être intéressés, si bien qu'il y a ces 2 femmes, Karine et Pépette, mais aussi 2 hommes qui ont participé à ces séances de soins. Donc il y a 4 personnes qui se sont manifestées, qui ont pu bénéficier de 2 séances de socio-esthétique chacune et chacun. En tout cas, on l'observe, et ça a plutôt tendance à valider l'hypothèse qu'on se posait au départ, qu'effectivement, la socio-esthétique remplit plusieurs fonctions bénéfiques pour les personnes qui en ont bénéficié, des fonctions psychologiques évidemment, des fonctions corporelles, plus ou moins instrumentales ou identitaires. À ce moment-là, j'interrogeais aussi la socio-esthéticienne pour savoir qu'est-ce qui s'est dit, comment ça s'est... est-ce que ça a changé quelque chose, que je sois là ou pas, etc. Et donc, elle dispense des soins... des massages corporels, plus de détente, hein, c'est pas une kiné, des massages des mains, des gommages du visage, des modelages des mains, en fonction de leur spécialité, les esthéticiennes peuvent également traiter des pieds, ce qui est important, hein, par exemple pour les sans-abri qui se déplacent beaucoup, qui parfois ont les pieds souvent, enfin régulièrement, durablement dans leurs chaussures, dans les mêmes chaussures qu'ils n'enlèvent pas nécessairement pour dormir. Donc il y a au-delà des questions d'hygiène, des questions cutanées, enfin des rapports à la santé là au niveau des pieds, des mains. D'ailleurs Laura, l'esthéticienne que j'ai observée. Et bon, alors, il y a le tutoiement qui s'instaurait très vite. Alors on fait quoi? Tu veux faire quoi? T'as envie de quoi? Et un peu comme ça, un menu qui est proposé. Là encore, je trouvais ça très bien, puisqu'on n'est pas dans une logique descendante où des soins sont proposés et bon, bah voilà, on fait ça parce que vous avez mal ici ou parce que vous avez un problème de santé là. Non, c'est vous qui décidez, en tant que bénéficiaire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous ferait du bien. On est dans des notions de bien-être. Alors qui paraissent assez en décalage avec finalement la dureté de la vie quotidienne, avec on se dit c'est quand même pas leur priorité quoi que d'avoir des moments de bien-être, mais c'est une erreur de se dire ça. Déjà parce qu'ils ne sont pas, comme je le suggérais tout à l'heure, uniquement dans la misère. Ils développent des compétences, ils ont aussi des relations, etc. Les sans-abri quand ils sont dans le monde de la rue. J'ai pu identifier finalement 4 grands types de fonctions que peut remplir ces interventions socio-esthétiques, certaines étant immédiates et d'autres effectivement nécessitant plus de temps et peut-être avec des effets à rebours. Je pense au bien-être immédiat que peuvent procurer des massages ou quelqu'un qui prend soin de soi. Sachant que Laura mettait tout en sorte, et il me semble que c'est une pratique commune chez les socio-esthéticiennes, puisque j'en ai interrogé 3 différentes, alors il y a quelques que j'ai observées, mais... une petite musique, une ambiance tamisée, me demandait de fermer les volets de la pièce, de couper la lampe, il y avait voilà une ambiance, si vous voulez, dans une petite atmosphère, une bulle comme ça. Donc le bien-être immédiat, il est déjà psychologique à ce moment-là, et corporel sur les effets de détente, sur la discussion qui peut s'instaurer avec l'esthéticienne. Il y a un effet deuxième dimension, ces soins-là, au-delà du bien-être et de l'apparence, peuvent être aussi très utilitaires. C'est ce qui a été demandé par certaines des personnes qui en ont bénéficié. C'est-à-dire là, il faut que je bricole des fils de cuivre, faut que je les décoigne pour pouvoir aller vendre du cuivre au marché noir. Mes doigts sont pas bien. Est-ce que tu peux me les masser pour que je puisse mieux bricoler avec mes doigts, quoi? Ou est-ce que tu peux me faire un massage des pieds parce que là, je clopine en ce moment. J'aimerais marcher mieux, quasiment dans une dimension de soins utilitaires, de soins corporels. Il y a également une troisième dimension qui est importante et qu'on oublie assez souvent, c'est ce qu'on peut appeler l'éducation thérapeutique. Comment prendre soin de soi, c'est ça que j'appelle l'éducation thérapeutique pour les personnes. Et là, typiquement, Laura, par exemple, elle donnait des recettes maison à Karine, une habitante dans une caravane du village. Elle lui donnait des recettes maison pour se faire ses propres gommages avec du lait de coco, du bicarbonate et des produits comme ça qu'on peut récupérer. Et d'autres, des petits dons d'échantillons de notamment de fond de teint, par exemple. Pour Pépette, alors Pépette, elle a des marques rouges comme ça sur le visage. Et quand elle vient voir Laura, qu'est-ce que je peux faire? J'en ai marre que dans la rue, on me dise « t'es battue par Jean-Louis, ton copain ». Et quand Laura lui propose, mais en fait c'est sur demande, de mettre du fond de teint, d'essayer de faire quelque chose, d'avoir des petites recettes maison, de voir comment elle pourrait dissimuler ses taches, se sentir mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête, en fait, très clairement là. Évidemment, Pépette, elle est preneuse, elle ressort de là et je la vois le lendemain parce que je repasse au village le lendemain. J'y allais tous les jours pendant plusieurs heures. Hein. Et surprenant, vous allez voir comment les comportements disent plus que les mots. Et là, Pépette, elle me fait la bise pour la première fois. Ça fait 3 mois qu'on se fréquente quotidiennement, elle me fait la bise. Je m'en suis rendu compte après ça. Hein. Et elle me dit, t'as rien vu? Alors, moi, naïf en plus. Moi, j'ai pas tout en tête à chaque moment. Non, à ta bonne mine. Bah oui, on voit plus mes cernes, tu vois, c'est Laura, elle m'a prêté des échantillons, faut que j'économise, à chaque fois que je vais aller dehors, je vais en mettre. Voilà, comme ça, je serai tranquille avec les questions qu'on me pose, et surtout, en fait, avec elle-même, dans la glace, et avec son passé, qui s'efface en même temps qu'on efface les traces, là. Donc là, on est, dans l'éducation thérapeutique, et la fonction, la dernière fonction, psychologique et identitaire de ce que peuvent recouvrir ces soins. Et il me semble que là, c'est la fonction la plus difficile à atteindre, qui nécessite répétition de ces séances, qui nécessite qu'il y ait une confiance qui soit nouée avec la socio-esthéticienne pour que se disent des choses, pour que le sac se vide, pour que les larmes coulent peut-être, mais que effectivement qu'il y ait un travail en profondeur autour de cette socio-esthétique.
Alors, pour conclure, vous l'avez dit, Thibault, les soins esthétiques ne semblent pas être une priorité de l'action sociale auprès des personnes sans abri. Mais on voit quand même avec votre recherche dans quelle mesure ces soins esthétiques permettraient quand même de participer à la réappropriation de soi, tant corporelle qu'identitaire, de ces personnes. D'ailleurs, votre recherche a été initiée par une bénévole de la Croix-Rouge française qui a elle-même le projet de monter un dispositif mobile, un beauty truck, comme elle l'appelle, de socio-esthétique, qui serait utilisé durant les maraudes de la Croix-Rouge française du côté de Montauban. Alors, je rappelle que votre recherche vient de se terminer, vous travaillez actuellement à en valoriser les résultats. Au terme de cette recherche, vous auriez, pour conclure, dernier mot sur justement l'utilité de ces résultats.
Ce qui s'ouvre à travers cette recherche, c'est la perspective pour la socio-esthétique institutionnelle, si je peux dire, voire dans les centres de formation, puisqu'ils traitent un petit peu de la précarité de l'insertion, pas seulement des publics hospitalisés, mais finalement dans les lieux d'application, c'est très descriptif, très illustratif. Donc quelque chose aussi pour former éventuellement des esthéticiennes bénévoles qui seraient pas socio-esthéticiennes, ou des bénévoles qui auraient des appétences pour l'esthétique, qui sont déjà au contact avec ces personnes, ils peuvent y trouver là. C'est pas un guide, mais ça pourrait vite se transformer en guide à l'usage des socio-esthéticiennes ou des personnes qui voudraient s'investir dans cette dimension auprès des personnes sans-abri, que ce soit à la Croix-Rouge ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'à l'échelle locale, on essaie de continuer finalement ce partenariat qui a été mis en œuvre et de maintenir ce déploiement de la socio-esthétique avec l'association ARS.
Thibault, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Enquête d'humanité, la série de podcasts de la Fondation Croix-Rouge française, présentée par Vincent Léger. Retrouvez cet épisode et ceux déjà diffusés sur Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Fondation. Ce podcast vous a plu? Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!